Restez informés en écoutant Que Québec se lève.
Avec Myriam Segal, Pascal CV et Alexis Sanson.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Au FM 93.
FM 93. Ça me parle. Ça me parle.
Bon dimanche matin, il gèle actuellement. On est à moins 1, moins 2, ça dépend des secteurs. J'aurais dû vous dire ça délicatement. Hein? On se reprendra. Journée faste pour la justice hier. Deux brutes condamnées à la prison à vie. Ouf! Pascal va explorer l'insignifiance télévisuelle et Alexis, l'insignifiance politique. Et Rouge et Or, c'est le match de la saison.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
Hey, t'es plus délicate que moi. Vas-y, Pascal.
Pas des nouvelles très, très agréables ce matin quand même. Un homme de 21 ans qui aurait agressé un autre homme à l'arme blanche à Sainte-Foy a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi. Johan Kodja Dorval aurait attaqué un homme de 19 ans dans la cage d'escalier du Doolies à 3h15 le matin. La victime a été transportée dans un centre hospitalier et a subi des blessures importantes au niveau de l'abdomen, mais le SPVQ ne craint pas pour sa vie. Dorval a comparé hier par vidéoconférence. Il fait face à des accusations de voies de fait graves. Le jury s'est prononcé hier. Hugo Fredette prend officiellement le chemin de la prison. Il a été trouvé coupable par un jury des meurtres au premier degré de son ex-conjointe Véronique Barbe et du septuagénaire Yvon Lacasse le 14 septembre 2017. Rappelez-vous, ces meurtres horribles. Le jury n'a eu besoin que de deux jours de délibération pour en arriver à un verdict, n'ayant pas cru la version de l'accusé. Et finalement, dans un discours aux forts accents souverainistes, Yves-François Blanchette a dressé hier soir son bilan de la campagne électorale. Ça s'est passé à l'occasion d'un grand rassemblement en Montérégie. Qualifiant le programme du Bloc québécois d'écologiste, de progressiste et de nationaliste, M. Blanchette a affirmé que la nation québécoise devra à nouveau considérer se donner les attributs de la souveraineté.
José Altuve a claqué un circuit de deux points en fin de neuvième manche avec deux retraits et permet aux Astros de Houston de s'en aller directement en série mondiale face aux Nationals de Washington. Les Astros ont remporté de justesse le match 6-4 face aux Yankees de New York pour mettre le titre sur le titre de l'Américaine, la main sur le titre de l'Américaine. La série mondiale va débuter mardi à Houston. Du côté du hockey, le Canadien signe un gain de 5-2 face aux Blues pour une deuxième fois en quelques jours. Will Gallagher, Drouin et Suzuki sont les marqueurs. Shea Weber a complété dans un filet désert. Le prochain match, c'est cet après-midi, 17h, contre le Wild du Minnesota. Ailleurs, dans la Ligue nationale de hockey, le premier choix du dernier repêchage, Jack Hughes, a inscrit son premier but dans une victoire de 1-0 des Devils contre les Canucks. L'attaquant de l'Avalanche, Tyson Jost, a complété son premier tour du chapeau en carrière dans une victoire du Colorado. 6-2 sur Tampa Bay. Les Oilers d'Edmonton ont rappelé le centre Sam Gagné. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Remparts sont à Rimouski pour y affronter l'Océanique cet après-midi. Ça se passe du côté de Rimouski. Au tennis, Denis Shapovalov se rend en finale de l'ATP pour la première fois de sa carrière. Le jeune Canadien de 20 ans a défait le Japonais Yuichi Tsujita en deux manches en demi-finale de l'Omnium de Stockholm hier. Et finalement, au football, c'est une grosse commande qui attend Thomas Bolduc et le Rouge et Or football cet après-midi au Stade TELUS, alors que les Carabins de l'Université de Montréal sont en ville.
La météo, je vous l'ai dit, moins 2 degrés, moins 1 en ville, là, mais on frise le gel actuellement où que vous vous trouviez. Ce sera quand même ensoleillé. Il y avait un beau ciel étoilé quand je me suis envenu ce matin. Donc, ce sera ensoleillé et ça va devenir une alternance de soleil et de nuages vers le milieu de la journée avec un maximum de 9 degrés. Ce soir et cette nuit, ça se dégage. Les nappes de brouillard au cours de la nuit, moins 1 avec du gel au cours de la nuit prochaine. Et demain, jour d'élection, généralement ensoleillé avec un beau 12 degrés.
C'était givré ce matin dans les pare-brises.
Oui, mais ça dépend des secteurs. Tu vois, dans le quartier résidentiel où j'habite actuellement, effectivement, il y avait du givre. Sur le chemin Sainte-Foy, il n'y avait plus.
Ça, c'était éliminé. Beauport aussi, c'était givré.
Oui, puis dans la Couronne-Nord, on a dû descendre à des moins 4, là. Tu sais, s'il fait moins 2 à cette heure-ci à l'aéroport Jean-Lesage, c'est fort probable qu'on ait atteint des moins 4, moins 5 dans les environs.
Est-ce qu'il a dans le parc?
Ah, j'ai pas regardé. J'ai
mais il y a déjà neigé dans le parc, là, depuis le début de la saison.
Moi, je recommence à faire le parc toutes les semaines. Là,
t'as tes pneus d'hiver?
Oui. Bon. Oui. Je les ai depuis... depuis deux semaines. Mais tu sais, c'est le 1er décembre cette année, les pneus d'hiver. Oui, au lieu d'être le 15.
Ouais.
Exact. Donc, c'est complètement stupide d'attendre à la dernière minute, là, mais...
Ben, vois-tu, on est le 20 octobre. L'an passé, la première neige qu'on a eue dans le parc, c'était le 18 octobre. Et on nous avisait, il y a deux jours, de mettre nos pneus d'hiver si on avait à faire c'est le parc des Laurentides.
Ah, puis...
Parce qu'on attend quand même jusqu'à 15 cm de neige. Attendu.
Quand ça?
C'est ah oui, c'est clair, quand, hein?
Mais c'est, je vous le dis, c'est vraiment pas très clair. Vont s'abattre jusqu'à ce soir dans les portions les plus élevées de la réserve faunique des Laurentides.
Youpi! Je vais essayer mes pneus neige le même matin.
Hey, si vous n'avez pas vos pneus, là, d'ailleurs, puis vous n'avez pas pris de rendez-vous, là, commencez à penser à appeler. Là, parce que si vous appelez là, vous les aurez pas avant au moins la mi-novembre, si c'est pas la fin novembre.
Oups. Mon garagiste m'a appelé à un moment donné pour me dire, là, si vous voulez un rendez-vous, là, ça va être le 5 novembre.
Mais voyons, t'as demandé un service VIP.
Ben oui.
Hello, oui,
quand t'es fin avec le monde, le monde est fin avec toi. Et en réalité, j'ai fait faire ça beaucoup plus de bonheur.
Ben oui, mais il y a de plus en plus de garages qui font ça, hein, eux-mêmes appelés, parce que sinon, tu te ramasses avec ben trop de monde qui veulent tous leurs rendez-vous en même temps.
Oui, puis avec la température de l'asphalte de ce temps-ci, tu brises pas tes pneus d'hiver si tu roules en pneus d'hiver au début d'octobre.
Ben non.
C'est la température de l'asphalte fait en sorte que tu n'abîmes pas la gomme.
C'est trop froid.
C'est pas vrai. Tu vas t'abîmer la gueule pas mal plus si tu les as pas quand la neige va arriver. Là.
Mais ça, c'est le fun de savoir les poser soi-même aussi, c'est les pneus. Là. Tu ne vas pas attendre après un garagiste.
Ouais, il faut.
Je parle pas d'alignement puis tout ça. Là.
Oui, mais. Ouais, ben ça, c'est.
Faut les balancer après. Comment tu fais les
balancer toujours.
Quand tu les poses toi-même?
Ben, honnêtement, là, t'es fait balancer une fois de temps en temps. Moi, j'ai toujours posé mes pneus moi-même. Puis, t'es bon pour faire facilement deux saisons, donc deux hivers puis deux étés sans les réaligner. À un moment donné, si tu roules à 115 puis là, tu sens une petite tension dans ton volant, ben là, c'est signe que ça serait peut-être le temps d'investir un 30$ dans le balancement de tes pneus, mais autrement, là, c'est pas si pire.
Marie, merci, monsieur mon garagiste.
Oui, c'est ça, notre expert en garage. Marie, ce qui dit, ça a gelé fort à Lévis, par brise, pelouse, tout est gelé.
Ben oui, si tu veux. Mais c'est un hiver qui arrive délicatement. Rappelez-vous, là, l'an passé, c'est arrivé brutalement de la neige, ça n'a jamais fondu.
C'était bing-bang, là.
Oui, mais c'était un peu après la date d'aujourd'hui.
Oui, mais là, ça, il me semble que c'est un hiver qui arrive délicatement.
Okay. Mais s'il neige demain, il n'y a personne qui va être surpris. Là. Tranquillement, ça a tout pointe vers ça, là.
À la une des journaux, les francophones restent derrière le Bloc québécois. C'est le gros titre du Journal de Québec avec un sondage sur un ultime sondage sur les intentions de vote. Faut quand même se méfier. Si j'ai bien compris le jargon bizarre autour de la marge d'erreur, non? Une marge d'erreur ne peut pas être associée à un échantillon non probabiliste. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 2117 répondants aurait une marge d'erreur de 213 et ça 19 fois sur 20. Ce que je comprends, c'est que s'ils se trompent de 213 sur 2117, ça veut dire une marge d'erreur de pas loin de 10%.
C'est quand même pas mal.
C'est beaucoup.
Ça me semble beaucoup. C'est ce que je comprends du jargon. Il faut toujours regarder les marges d'erreur quand vous regardez les sondages. Parce que des fois, les sondeurs vont vous dire « on s'est pas trompé », puis pourtant, le résultat est pas du tout conforme au gros titre.
Mais...
C'est parce qu'ils se sont pas trompés, parce qu'ils ont une marge d'erreur.
Explique-moi pourquoi un sondage, puis je te pose une question, là, et on va le développer. Pourquoi un sondage, c'est si important, puis pourquoi on en fait autant dans une campagne
électorale? Très bonne question, ça.
Parce qu'on essaye de comprendre comment pense l'électeur.
Mais au contraire, c'est pas d'influencer l'électeur. Moi, dans un sondage comme ça, j'ai l'impression que ça influence beaucoup plus les votes, puis que ça va aller diluer, puis ça va aller mêler. Puis... Non.
Là. OK. Toi, ça t'influence pas. Toi, Alexis, ça t'influence?
Non.
Moi, ça m'influence pas non plus. Pourquoi le reste du public serait influençable?
Ben comme quand on a vu la vague orange, pour moi, c'était de l'influence. Là. C'était de l'influence des sondages,
non.
L'influence de,
moi,
du bouche à oreille.
Je pense pas que c'est l'influence des sondages. Je pense que les gens cherchent désespérément une issue de secours lors d'un vote comme celui qu'on a, où on doit choisir entre deux pas bons. Les gens cherchent une issue de secours.
Mais avec des marges d'erreur de 10%, avec n'importe quelle firme qui commence à faire ça, puis je ne remets pas en doute, là, vas-tu, Stéphane dit, moi, ça m'influence. Stéphane, lui, ça l'influence. Puis je dis pas qu'on est influençable et que c'est négatif. Je pense juste que le cerveau humain, puis peut-être qu'on dit qu'on n'est pas influencé, mais finalement, on l'est. Là. Quand on regarde ça, on se garde. Tel parti va peut-être être élu, donc moi, je vais aller voter, je vais faire un vote stratégique. On est influencé, finalement. Au lieu de voter pour ce qu'on croit fondamentalement, puis pour la plateforme électorale du parti, on reste influencer parce qu'on souhaite être stratégique aussi.
Ben, moi, il n'y en a pas un qui présente ce que je crois fondamentalement. Ça fait que forcément, ben, ça, je fais toujours des concessions. Oui. Puis je me dis, je me choisis le moins pire de la gang.
Je sais pas, moi, j'ai de la misère avec des sondages.
Mais je rejoins...
Celui qui me semble le moins pire. Je suis souvent déçu le soir même, il faut dire.
Mais je rejoins Pascal sur le fait que tu peux être influencé si ton vote peut changer quelque chose. T'sais, si tu vois que deux candidats sont pas loin, tu dis, ben garde, lui, je l'aime pas tant que ça, mais je l'aime quand même mieux que l'autre. Ça fait que je vais voter pour lui plutôt que de voter pour mes propres convictions.
Ouais.
Maxime Bernier en Beauce, là, moi, je pense que ça, les conservateurs vont peut-être ramasser du monde qui aime pas nécessairement plus que ça, les conservateurs, mais qui aiment encore moins Maxime Bernier. Fait qu'ils se disent, pour le débarquer, on va voter pour l'autre, même si moi, j'aurais voté NPD ou libéral.
Et ça, c'est correct, ça n'a rien à voir avec le sondage.
Ben oui, parce que comment tu sais que c'est qui l'alternative?
Ben, le sondage te donne de l'information, donc il est très important si tu veux utiliser ton vote dans les limites de la démocratie que nous avons actuellement.
Ça t'influence quand même. Michel dit tout à fait d'accord avec toi.
C'est une information. L'information... toute information va t'influencer.
Mais c'est pas de l'information du parti, c'est de l'information des intentions de vote. T'sais, Michel dit tout à fait d'accord avec toi, Pascal, les sondages influencent les indécis qui veulent gagner leur élection ou Myriam qui vote stratégique. Pour lui aussi, c'est une sorte d'influence.
Oui, mais c'est de l'information. On est capable de gérer l'information comme être humain. Sinon, on va se fier à un dictateur qui va s'organiser pour qu'on sache juste ce qu'il veut qu'on sache.
C'est que tu le vois vraiment négatif. Je pense pas que c'est positif ou négatif, mais je pense qu'il y a une influence en arrière de ça. Puis moi, j'ai de la misère. Je le vois pas négativement, c'est juste que à un moment donné, ton cerveau va peut-être computer d'une autre manière et dire « Hey, je vais voter stratégique au lieu de mes convictions. » Puis que ce soit bon ou pas, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Mais tu sais, quelqu'un dit « C'est vrai, moi aussi, ça m'influence. » Marie-France dit « Aucunement influencé, mon choix est fait depuis le début. » Mais pour certains, ça devient stratégique au lieu de voter pour
moi, ce qu'on croit. Je le considère comme une information supplémentaire que je mets dans mon coffre à outils et non pas comme une tentative de m'influencer. Moi, je vote pas pour gagner mes élections. Je vote pour limiter les dégâts.
Ouais, mais parce que tu vois requin. Tu vois mon commentaire comme étant, mettons, requin. On se fait avoir par les sondages. C'est pas du tout mon point. Okay. C'est juste que, je sais pas. La misère, moi, avec les petits sondages comme ça.
En tout cas, la conclusion du sondage, c'est qu'on s'en va vers un gouvernement minoritaire.
Ouais.
Que le Bloc québécois va cartonner. Ce qui m'inquiète un peu quand j'ai entendu le discours de Yves-François Blanchet hier, où on est reparti pour la souveraineté. Je pense qu'une grande majorité de gens qui vont voter Bloc québécois se réfugient dans le Bloc québécois en se disant « Bon, ben, tant qu'à avoir la balance du pouvoir, autant que ce soit le Québec qui l'ait. »
Oui, bon, tout à fait.
Sauf que le scrutin est demain, puis c'est prononcé hier. Fait que moi, je me dis, pour ceux qui ne souhaitent pas du tout la souveraineté, puis qui pensaient voter Bloc parce que, encore une fois, c'était stratégique, ben, ils l'ont su hier, ils l'auront pas su mardi.
C'est ça.
Il est revenu avec ses informations.
Dans le reste du Canada, parce qu'on parle du Québec, mais le Québec, c'est 1 sur 10. Là. Dans le reste du Canada, c'est 33% libéraux, 33% conservateurs. Le NPD évite quand même la totale débandade. Il tourne autour du 18-20%.
Ça s'annonce pas pour être le fun, hein, lundi soir et mardi, là, ça va être compliqué, là.
Déjà pas le fun.
33, non, mais 33-33, ça va repartir sur des batailles de off.
Et tu vois, les derniers qui votent au Canada, ce sont les gens de Colombie-Britannique. Et là-bas, là, c'est 31% pour le Parti conservateur, 29% pour le Parti libéral et 26% pour le NPD. Donc, on est dans la marge d'erreur totale.
Oui. Sortez le popcorn, ça va être long. Ça va être long. Le temps de compter les votes, les bulles. Ah, Colin, qu'on va être couché tard.
Ça, puis les prédictions, à savoir, ça va être quand la prochaine élection? Hein? Quand est-ce qu'on va décider de retourner en élection parce que ça va être un gouvernement minoritaire?
Ben là, il va falloir qu'ils apprennent à vivre ensemble. Okay?
Ben d'accord.
Bon, il faut. Moi, celui qui va faire tomber le gouvernement, il n'y aura pas mon vote la prochaine fois. C'est aussi simple que ça. Les jurés n'ont pas cru Fredette, on va en parler tout à l'heure de Hugo Fredette qui a été condamné. D'ailleurs, en même temps qu'un autre sale type qui s'appelle Maxime Labrecque, qui lui aussi a poignardé son ex-conjointe parce qu'elle voulait le laisser. Là. Les deux, hier, les jurys sont arrivés à conclusion coupable de meurtre prémédité, mur à mur. Les champions encore battus, ce sont les Blues.
Oui.
De Saint-Louis, qui ont été battus par le Canadien, et deux présidents, deux mondes. Il s'agit de Jacques Chagnon et de François Paradis, dont le journal a comparé les dépenses comme président de l'Assemblée nationale. Et autant l'un était prodigue, autant l'autre est frugal. On peut dire ça comme ça. Disons que c'est une occasion, j'ai l'impression, pour le Journal de Québec continuer à fesser sur la tête de Jacques Chagnon qui est plus là de toute façon.
No bar!
Mais on y reviendra parce que ça m'a inspiré certaines
réflexion.
Certaines réflexions, oui. Dans la presse plus, c'est sûr qu'il n'est pas là. On est vendredi. C'est l'absentéisme à l'école, l'absentéisme des élèves, qui est, qui est l'objet d'une enquête.
Oui, mais il y avait ça, mais je me souviens moi aussi dans ma classe, là, cette phrase-là, là, j'ai des souvenirs à propos d'un élève que lui aussi, le vendredi, c'est bien rare qu'il était là.
Bon, ben, la presse a fouillé, et ce qui est très surprenant, c'est que beaucoup de commissions scolaires, dont toutes celles de Montréal, ils n'ont aucune statistique là-dessus.
Ah,
c'est bizarre. On ne s'intéresse pas à savoir si les élèves vont à l'école ou pas. Oups!
Mon Dieu, il me semble que c'est l'élément premier de quelqu'un qui s'occupe d'une commission scolaire.
Et on parle du pays de l'or blanc, c'est le lithium, là, la Bolivie s'apprête à exploiter ses mines de lithium et à devenir la batterie de la planète. Les mines de lithium en Bolivie, cependant, menaceraient un désert. Il n'y a rien dans un désert. Moi, si ça permet à des gens qui sont malheureux de vivre bien, hein, oui, exploite-le ton lithium. De toute façon, au Québec, on fait le difficile. T'sais. On a une mine de lithium qu'on veut exploiter en Abitibi. Là. Puis là, on leur sacre des... Même s'ils sont en dessous des normes, on leur sacre des BAP, puis des normes, puis des ci, puis des ça, puis ça finit plus. On veut pas exploiter nos ressources naturelles, nous autres. On veut des téléphones cellulaires avec des batteries ion lithium. On veut des voitures avec des batteries ion lithium. Mais on veut pas exploiter nos ressources. On va laisser la Bolivie faire. Il est 7h17.
Parce qu'il y a plus dans trois cocos que dans un, voici le Brass Coco.
On est dimanche, c'est au tour d'Alexis.
Si vous rentrez dans un magasin quand même chic, là, tu es respectable, chic, qui a du bon sens, et il y a deux dames à côté des autres qui sont en train de magasiner. Une qui est habillée chic, avec sa robe et son manteau de fourrure.
Ben voyons.
Et l'autre, à côté, est habillé en survêtement de sport, en leggings, en coton ouaté, avec ses souliers de sport.
Deux extrêmes.
Tu veux savoir laquelle des deux on est? Pascal et la dame avec le manteau de fourrure?
Tout non. Aujourd'hui, c'est incroyable.
Moi, je suis l'autre. Moi, je veux savoir, vous regardez les deux dames, vite comme ça, laquelle a le plus d'argent?
Ben là, c'est sûr qu'on va se dire la dame avec le manteau de fourrure. Là.
Non, mais... L'argent, c'est plus tu l'étales, moins t'en as.
Ouais, mais là, c'est une attrape. C'est ça, c'est une attrape.
C'est sûr,
là.
C'est une attrape. C'est quoi?
Ben, en fait, moi, la question, c'est de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous sortir les chiffres après.
Mais si tu savais comment ça vaut cher maintenant, des survêtements de sport.
Parce qu'on a fait, il y a une étude qui a été faite, puis je voyais ça dans une espèce de série sur Netflix là, qui a été faite, là, qui s'appelle Explain, où on explique toutes sortes de phénomènes. Et quand on a posé la question, ça a été fait par le Journal of Research. Et la question, c'est finalement, il y a deux personnes sur trois qui répondaient que la dame en survêtement de sport et habillée décontractée était celle qui avait le plus de moyens. C'est une étude qui a été faite en 2013 par le Journal of Consumer Research. Et eux sont partis de ce principe-là et se sont demandé pourquoi et comment est-ce que les vêtements de sport en sont venus à être tendance comme ça et acceptés socialement. Parce que fut une époque où, quand t'étais chic, noble et respectable, tu t'habillais bien, tu t'habillais propre et tu voulais être distingué.
Je me rappelle qu'il fut une époque où, quand tu prenais l'avion, t'achetais un petit tailleur pour prendre l'avion.
Oh,
pour
mais...
bien paraître, hein? Parce que l'avion, c'était chic.
Mais en même temps, là, ces gens-là qui s'habillent de façon chic et distinguée en avion, je les admire. Hey, ça peut être inconfortable.
Ça se fait plus.
Ah,
oh,
c'est vrai, ça.
Pardon?
Tu penses que ça se fait encore?
Oh, il y a encore des femmes qui sont extraordinaires, avec leurs talons aiguilles. Puis, ben voyons donc, vous autres. Mais peut-être qu'ils ont un meeting en arrivant à Paris. Là,
c'est
mais...
sûr.
Puis, eux ont essayé de décortiquer ce que tu appelles le phénomène de l'athleisure, là, qui est le fait de s'habiller bien, mais de s'habiller en sport, mais quand même bien. Et ça part du fait que, déjà, il y a plusieurs années, les vêtements de sport étaient bien vus parce que c'était juste les riches nobles qui avaient la chance d'avoir des passe-temps. Parce que eux, ils avaient la chance d'avoir des esclaves qui allaient faire leur job pour eux autres et qu'eux allaient pouvoir se divertir et aller faire du sport. Et tranquillement, pas vite, la mode a évolué comme ça et on a adapté plein de linge aujourd'hui qu'on utilisait pour faire du sport fut un temps, mais qu'aujourd'hui, c'est devenu propre. Et on donnait des exemples. Le polo, là, le polo aujourd'hui, quelqu'un qui porte ça, c'est quand même beau, c'est chic un polo, mais à l'époque, c'était fait justement pour jouer au polo. Les sneakers, ça provient du croquet. Quand on jouait au croquet, on mettait ça, c'était les souliers pour faire ça. Les shorts ont commencé à apparaître avec les femmes qui faisaient notamment du tennis et du golf. Et le Henley shirt, ça c'est le t-shirt avec des boutons. Qui est pas un polo, là, mais qui est juste un t-shirt avec des boutons. Ça vient de la rame. Les rameurs portaient ce genre de vêtements-là. Et tranquillement, pas vite, on s'est mis à adapter tout ça. Et ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que quand on remarque, mettons, la mode des Mark Zuckerberg, qui va s'habiller toujours en jeans, en t-shirt, mais c'est comme si lui avait tellement de prestige qu'il avait même plus besoin de respecter les conventions, alors que quelqu'un de la classe moyenne qui veut bien paraître, qui veut aller séduire des gens du monde des affaires et qui veut montrer qu'il connaît ça, lui va avoir l'obligation de porter son complet pour être pris au sérieux. Mais Zuckerberg est tellement au-dessus de tout ce monde-là qu'il n'a même pas besoin de respecter ces conventions-là et qu'il a le luxe de s'habiller comme monsieur, madame, tout le monde en short pant t-shirt.
Et du coup, probablement que ça va faire disparaître ce réflexe de s'habiller de façon chic.
Oui.
T'sais, dans le fond, on vient de libérer les gens d'obligations vestimentaires.
Pis, et même dans la perception populaire, ça l'est. Parce que si on revient à la question que je vous ai posée à la base, quelqu'un qui s'amène dans un magasin chic qui est habillé en survêtement de sport est pris au sérieux. Parce qu'il y a 2 personnes sur 3 qui vont dire que cette personne-là a plus d'argent que l'autre qui essaye de montrer qu'il y a de l'argent alors qu'elle s'habille chic.
Mais en même temps, moi, je me dis, Colin Zuckerberg, on sait qu'il y a de l'argent. C'est écrit dans son front. On le connaît, c'est une personnalité publique. Fait que même s'il s'habille en sac à poubelle, je le sais qu'il peut s'habiller autrement. Là. C'est flagrant pour moi. Tandis que
oui, mais
la personne avec le pantalon de coton ouaté gris avec une petite tache là, qui se promène dans la rue, bien qu'il y ait de l'argent, je vais le regarder et je vais dire, t'aurais pu faire un petit effort, mon chum.
Ouais, mais ça veut pas dire que tu vas te dire « Ah, ça, c'est un pauvre ».
Non,
c'est ça.
Mais un pauvre négligé, oui.
Oui, c'est ça. Mais la négligence est...
Mais la tâche fait toute la différence. Là, c'est parce que tu rajoutes une tâche. Moi, je te parle d'habillement. C'est sûr que la tâche va un peu trahir le fait que tu as négligé quelque peu ton habillement. Là.
C'est rare qu'il n'y ait pas de tâche sur ce vieux pantalon de coton ouaté gris qui m'écœure tant.
Oui, mais tu peux acheter des nouveaux pantalons. À un moment donné, fut un temps où le pantalon a été beau et chic.
D'ailleurs, dans les concessionnaires automobiles, quand ils voient arriver un gars qui est habillé en habit de travail avec des bottes de jobber, là,
ouais,
ils prennent au sérieux.
Mais tu
parce
sais
que lui, il va repartir avec un
gros,
F-150.
Le gros pick-up. Bon.
Mais tu sais que moi, à chaque fois que je vais dans un garage, je me change. Peu importe comment je suis habillé, je vais aller chercher mes bottes à cap d'acier puis ma veste carottée puis je vais aller au garage avant juste pour être sûr d'être pris encore plus au sérieux par le garagiste.
T'es sérieux?
Ben oui, mais ben, parce que tout est une question de perception dans la vie. Je sais fort bien que si j'arrive là avec ma chemise que je viens de porter pour aller à une conférence de presse X, je vais arriver là-bas et je vais dire, check le citadin qui connaît pas un seul mot de garage puis qui sait pas comment ça marche, mais je vais m'habiller.
Hey,
puis là il va savoir le langage que je parle.
Mais vois, je pense zéro à ça. 000 à, je pense à comment je vais m'habiller.
Aussi.
Mais c'est ça. Je pense à comment je vais m'habiller, par exemple, dans certains événements, là, ou, mais pas avant de m'aller magasiner, pas avant ci, pas avant ça.
Hein? Tu vois?
Toi, oui?
Non, pas en tout.
OK.
Moi, mon habillement est le cadet de mes soucis.
Hey, 25226, est-ce que vous pensez à comment vous habiller avant d'aller, mettons, essayer de vous faire prendre au sérieux dans un concessionnaire automobile, par exemple?
Ton brasse-coco, toi?
Oui. Hey, moi, je m'en vais vraiment dans une autre affaire, là. Pour 25226 encore, s'il vous plaît, répondez-moi. Et pas besoin de dire, ah, elle va me juger ou quoi que ce soit. On va pas vous juger. Mais pour ou contre des couples avec une grosse différence d'âge. Tu sais, je vous parle, mettons, d'un 49 ans avec un 23 ans. Puis, dites-moi si pour une femme, c'est acceptable 43 ans avec un jeune de 23 ans et pour un homme. Je pense que les visions sont totalement différentes. Mais ce matin, c'est intéressant, dans le Journal de Québec, page 32, on parle de sexualité, la libido avec la différence d'âge. Puis, on explique, bon, là, on va me dire, ben oui, c'est sûr que les plus vieux trippent, c'est plus jeune, là. C'est sûr que ça augmente la libido. Mais ça va plus loin que ça. Il y en a qui racontent leur histoire en disant, j'ai tellement eu une mauvaise relation avec quelqu'un qui avait mon âge, pas juste relation sexuelle, mais relation point, que quand j'ai découvert une personne qui était plus, tu sais, plus relaxe dans sa façon de vivre, plus jeune, avec une autre vision, mais qui était tout de même mature, ça a changé complètement ma vie. Ils disent que, finalement, le jugement, tu dois juste l'évacuer pour bien vivre ton amour envers quelqu'un de jeune. Puis, au-delà de ça, moi, je me suis juste dit, c'est tellement pas acceptable en société, là.
Non.
Cette différence. Peut-être que je me trompe, là, mais tu sais, déjà, les commentaires.
Ça l'est de plus en plus acceptable.
Ben, ça l'était
avant, il y a plusieurs années, parce que c'était fait comme ça, puis bon, on peut bien en juger. Moi, 14 ans avec un vieux de 50 ans, ça me dérangeait beaucoup, là, même
mais
quand je relis.
14 ans, c'est...
Non, non, ben, dans le temps, c'était ça, là. Je te parle pas il y a 20 ans, je te parle il y a 50, 60 ans, 70 ans, là. Mais déjà, ce qui entre, c'est pas du tout, vraiment pas. Puis j'ai. Tu penses que c'est de plus en plus accepté, mais je suis pas sûre. Moi, je pense qu'on est un peu...
Voyons, l'exemple de Macron et de
Brigitte.
Un homme plus jeune avec une femme plus vieille.
Ça, c'est accepté plus...
Plus facile.
Oui, l'homme plus jeune, la femme plus vieille, ça fonctionne. Mais la femme plus jeune et l'homme plus vieux, tu te dis, elle est là pour les raisons de monétaire.
Et même
sûr et certain.
Donc, on soupçonne la femme de s'accrocher à quelqu'un de plus vieux pour des raisons monétaires, mais on soupçonne pas l'inverse.
Ben moi, je pense qu'on pose même un jugement sur la femme plus vieille qui va aller chercher un plus jeune en se disant c'est une femme qui a bien de l'argent, qui est capable de faire vivre aussi un jeune homme, mais qui va aller assouvir toutes ses envies.
La femme... attendez un peu, là. Vous êtes en train de me dire la femme est toujours jugée...
Oui.
Comme celle qui tente de ramasser le portefeuille du bonhomme.
La profiteuse.
Ouais, femme est plus vieille, c'est pas pour des raisons monétaires qu'elle est là.
Non, c'est le contraire.
Ouais. Elle est bien monétairement.
Je vais être mal faite, parce que moi, dans ma tête à moi, chaque amour est une espèce de miracle temporaire, puis il faut en profiter, puis peu importe les écarts d'âge.
T'as pas de jugement. J'ai l'impression que fondamentalement, la femme va constamment être jugée dans un couple si elle a une différence d'âge, par exemple, par rapport à son chum plus jeune ou si elle est avec un plus vieux.
Je connais quelqu'un qui cherche délibérément. Puis le gars, il a 65 ans, je pense. Okay. Bon. C'est un homme qui paraît bien. Et il cherche délibérément une fille de 25 ans.
Pour être sugar daddy?
Oui,
ça, c'est à mode, là.
Parce que sur le plan sexuel, ça l'allume pas mal plus des chairs fraîches que des chairs flasques. Bon. Et il est à la recherche de ça. Il le cherche. Ça, je trouve ça malsain.
Ben, crème, c'est juste sur le plan sexuel. Je peux pas croire que cet homme-là va avoir des conversations de son âge et de ses expériences avec cette jeune femme-là.
Et tu vois, la quête de quelqu'un de plus jeune absolument que moi, ça, je trouve ça malsain.
Okay.
Mais que deux êtres se rencontrent et tombent en amour, moi, je m'en sac de l'âge qu'ils ont du moment qu'ils sont majeurs et vaccinés.
Mais on connaît pas les intentions des... ça rentre, là. mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opinions par rapport à ça. Stéphane qui dit, c'est pas de nos maudites affaires, gentiment dit. L'amour n'a pas d'âge. Ce que les autres pensent de moi, ça ne me regarde pas. Nancy qui dit, coupe avec une grande différence d'âge pour et je l'ai vu depuis 6 ans, quelqu'un d'autre... J'ai eu pendant longtemps une relation avec mon ex et on avait 20 ans de différence. Ah ouais, elle était plus jeune. Ça a fonctionné combien de temps? Je suis intriguée. Quelqu'un d'autre, contre, pour une raison, quand l'un d'eux arrive à 80 ans, c'est plus possible pour l'autre. J'ai vécu cette histoire avec ma famille.
On a juste à se laisser.
Mais tu finis tes jours seul?
Ben oui.
Mais c'est ça qui est
particulier. On finit toujours tout seul.
Et malheureux.
On finit toujours tout seul, là. Non, être seul, c'est pas forcément être malheureux.
Vas-tu, Louis? Non, j'espère. Faut pas arriver là. Louise qui dit, je suis contre, peut-être parce que je n'y crois pas.
C'est ça. Ben, vous y croyez pas, mais vous... Moi, du moment qu'on juge pas les gens qui en arrivent là.
Mais je pense
Mais ce que je trouve malsain, moi, c'est la quête. C'est quelqu'un qui cherche délibérément un âge, un type, tu sais... au lieu de s'ouvrir à ce qui se présente.
Oui. Billy, selon mon expérience limitée, tant que les deux sont majeurs, je n'ai pas de problème. D'accord avec la différence d'âge entre partenaires, si les deux sont consentants et heureux, je suis une femme de 34 ans avec un homme de 52 ans. Si l'homme est plus vieux et que la femme est plus jeune, est-ce qu'on peut avoir encore des enfants? Il y a des conflits qui arrivent.
Oui, il y a un moment donné où le tic-tac biologique de la femme... Mmh. Va lui dire, garde, c'est le temps d'en avoir parce que t'en auras plus tard. Et si le gars est pas prêt, là, il y a un conflit qui se dessine. Il y a des couples qui éclatent pour ça.
Oui,
c'est correct aussi, ça fait partie de la vie. Faut laisser aller la vie.
J'ai l'impression que tant que tu connais pas un couple qui a une grosse différence d'âge, qui va bien, puis que c'est sincère, puis que c'est pas pour des mauvaises raisons, comme tu dis, l'être humain a tendance à juger ça. Notre regard, tu sais, ça pourrait être sa fille, on dirait sa fille, puis on a de la misère avec l'image. Puis quand je te dis les sugar daddy, puis les sugar mommy aussi.
Les cougars.
Ben, les cougars, mais c'est des... Mm. Les cougars, c'est une femme qui va aimer l'homme plus jeune. Sugar mommy, c'est une femme qui va vouloir faire vivre un jeune en échange de sa compagnie. Même affaire pour sugar daddy, ça va vouloir faire vivre une femme en échange de compagnie. Et c'est tellement populaire, Myriam, là, que maintenant, tu te fais contacter sur les réseaux sociaux.
à savoir si ça peut t'intéresser. Et je parle tellement pas à travers mon chapeau que j'ai eu des demandes.
Toi, t'as eu des demandes?
J'ai eu deux demandes dans ma vie.
Ben oui.
Et ça m'arrive pas à moi. Ah oui, c'est parce que je suis pas dans la bonne catégorie.
Toi, faut que t'écrives, Myriam, mon gars.
Faut t'écrire aux jeunes de 25 ans, là. Ou 20
pas.
Ans, Alexis. Alexis.
Ça m'intéresse non? pas. Ça aussi, pour moi, c'est un grand mystère. Cette quête de compagnie perpétuelle.
Triste, c'est triste. C'est, faites-moi croire que la jeune fille ou le jeune homme qui va se faire payer plein d'affaires est là parce que, mon Dieu, que t'es d'agréable compagnie.
Ouais.
C'est vivre dans le mensonge. Tu serais capable de payer quelqu'un, toi?
Pour malade.
Faire semblant que sa compagnie est donc...
Es-tu malade? Moi, je savoure mes moments de solitude comme des perles précieuses.
Oh, attends, excuse-moi avant de terminer. Ma tante de 48 ans s'est mariée avec un mec de 23 ans. On va fêter leur 25e l'été prochain. J'avais 32 ans dans le temps. OK, ça veut dire que ça fait longtemps, parce que j'ai comme 23, 25e, ça marche pas. 48 ans avec 23 ans?
Va-t'y ben oui.
La misère à pas.
T'as de la misère à pas juger.
Mais je dis pas que je juge, là.
Ben non,
peut-être que je laisse transparaître d'autres choses.
Clairement, si ça t'offre 25 ans, clairement, ils trouvent tous les deux leur compte.
Oui, c'est beau. Ça, c'est beau.
Tim, ils vont fêter autant de différences d'âge.
Ah, moi, je
25 ans, 25 ans de différence d'âge.
Mais vivre et laisser vivre.
Mais je serais curieuse de parler à cette personne-là qui nous a écrit. Je suis pas mal certaine que ça a été difficile à avaler dans la famille au départ.
Ah, c'est possible. Mais il faut que les gens arrêtent de juger.
Aimez-vous.
C'est ça. Laissez aller. Ça, de toute façon, ça nous regarde pas. Ça nous regarde pas.
Ouais, ben, il y a tellement de choses qui nous regardent pas puis qu'on s'en mêle pareil.
J'ai été surprise d'une émission de télévision britannique qui est en train de semer la zizanie en Grande-Bretagne. C'est une émission qui est qualifiée de sadique par certains. C'est-à-dire qu'on confie un animal domestique à une famille. Ça peut être un cochon, ça peut être un veau, ça peut être un chien, peu importe.
Un chien, OK.
Mais c'est un animal domestique, mais plus le genre d'animaux qu'on pourrait manger.
OK. Okay?
Pas un chien, s'il te plaît.
On laisse la famille s'attacher à l'animal domestique en question. Okay. C'est très attachant, notamment les cochons, là. C'est très attachant. Une chèvre, là, c'est comme un animal, c'est comme un chien.
Dépend pour qui. Moi, tout ce qui sent le foin, là.
Ben, moi, pour avoir vécu à la campagne, puis avoir eu des cochons, des chats, des chiens, de tout ce que tu veux, là, des chèvres...
T'as eu de l'amour pour des animaux, Myriam?
J'aime beaucoup les animaux, moi. Mes morts et dans mon assiette sont encore meilleurs.
C'est ça, je pensais.
Bon. Alors, dans cette émission-là, on laisse la famille s'habituer et au bout d'un certain temps, on leur dit « Bon, ben c'est le temps de manger Pitou ou de manger l'animal domestique que vous avez élevé. Ou bien, on l'amène à l'abattoir, on vous le découpe et vous le mangez des prochaines semaines. Ou bien, vous devenez végétarien. »
Mais en quoi ils sont obligés de devenir végétariens dans l'émission? Là. Ils peuvent choisir ce qu'ils vont faire après.
Ben, je ne sais pas comment fonctionne très bien
l'émission. Quelqu'un qui vient les espionner.
Mais l'idée est d'induire dans la tête des gens que c'est écœurant de tuer un animal. Même si tu ne le vois pas, même s'il est à l'abattoir, que si tu l'avais avec toi, tu l'aimerais, l'animal.
C'est quoi cette émission-là?
Mais moi, je trouve ça épouvantable. C'est passer le végétarisme en travers de la gorge du monde, de force, en leur faisant croire que tu ne peux pas manger un animal auquel tu t'es attaché. Moi, je t'annonce que le baboy qu'on avait élevé, là, on l'a mangé, il était très bon.
Aïe, non, mais j'ai de la misère. Pour mettre quelqu'un qui est végane, végétarien...
Le baboy, c'était un cochon.
Moi, je m'en doutais que t'avais un gros porc dans cette histoire-là. J'ai de la misère avec ça parce que je trouve que c'est automatiquement biaisé, cette émission-là. Tu veux inculquer quelque chose dans la tête de quelqu'un. C'est sûr que si tu t'attaches à l'animal, ça doit être tough de vouloir le manger après. Puis pour les téléspectateurs, qui va regarder ça?
Ben, je sais pas.
Faut être
Écoute,
un peu
l'émission
fou.
Va être mise en onde en 2020. Donc, bientôt. Il y a juste une bande-annonce qui a été publiée sur YouTube. Et ça s'appelle Meat the Family. Ils écrivent Meat, M-E-A-T.
Viander la famille.
Bah, c'est un jeu de mots, là. Mais c'est... Je trouve ça malsain, cette espèce d'idée que tous les animaux doivent être traités avec tant de délicatesse, comme si c'était... Écoute, il y a des animaux qui n'existeraient simplement pas si on n'en mangeait pas.
Ouais, ben là, attends un peu, là. On les fait exister juste pour les manger. Je pense pas que c'est une superbe vie non plus.
Mettons que tu me permets de dire ça.
Je m'en fiche, là. Regarde, ils servent à me faire manger.
Oui, mais ton argument, c'est comme ils ont eu une belle vie. Ils ont
pas qu'ils ont eu une belle vie, c'est qu'ils en ont eu une.
Ben oui, mais tu sais, tant qu'à ça, j'en veux pas, là. Moi, si on me met au monde pour me manger un bras dans deux semaines, c'est bon.
C'est comme les braves vétérinaires qui ont décidé que je pouvais plus faire dégriffer des chats. Le résultat, là, c'est que moi, j'aurais plus jamais de chat. Donc, il y a un chat qui va se faire euthanasier à la SPCA parce qu'ils ont décidé que moi, je ne pouvais plus le faire dégriffer.
Pour ça, par contre, moi, je trouve ça intéressant de savoir que, regarde, il y a des risques à le faire. Tu fais mal à ton animal. Tu sais, pour plusieurs personnes, un animal, c'est vraiment un meilleur ami. Une meilleure amie, c'est un membre de la famille. Puis je pense qu'en le sachant, ben, ils prennent la décision en conséquence puis ils font leur choix.
Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de déifier les animaux. C'est rendu que les animaux sont plus importants que les êtres humains. On peut-tu se laquer un peu? Et cette émission-là fait partie de ce courant-là.
Oui, ça, mais l'émission, j'ai bien de la misère.
7h35.
Que Québec se lève.
De retour.